Bonjour à toutes et à tous. Je vois beaucoup de visages qui me sont familiers et ça me fait très plaisir qu'on soit réunis ce soir autour d'Antonio Gramsci. J'en ai marre à rappeler qu'il n'y avait pas de biographie. C'est vrai qu'en français, c'est la première. Alors, il faut être honnête, ce n'est pas la première. Il y en a une qui a été traduite de l'italien, mais qui maintenant est épuisée. Et c'est surtout la première. Ça va, le son? Oui. Non. Et c'est surtout la première qui est écrite par un Français. Alors, c'est au fond en soi quelque chose sur lequel il faut s'arrêter 2 minutes, parce que, et là encore, Jean Dumas le disait, Gramsci est assez connu. Connu d'un public européen, d'un public même international, et en particulier français. Gramsci a même eu son heure de gloire à une certaine période en France, période que l'on peut identifier assez facilement, disons, du tournant des années 60 jusqu'au tournant des années 70. Il y a véritablement un âge d'or des publications de Gramsci. Et ensuite, la popularité de Gramsci continue. On a eu d'ailleurs des témoignages pour l'anniversaire de sa mort en 2017 d'une série de colloques. Mais l'homme Gramsci, en revanche, lui, a été peu connu. Et au fond, s'il y a une originalité dans ma démarche, et je crois que cette originalité, elle vient du fait que ce soit un Français qui doit justement écrire, et quelqu'un qui est d'abord spécialiste de l'histoire italienne avant d'être, si vous me passez ce néologisme, un gramsciologue, parce qu'il y a des gramsciologues. Et je crains toujours dans la salle les questions des gramsciologues, parce qu'ils en savent sans doute plus que moi sur tel ou tel point, sur tel ou tel aspect de la doctrine de Gramsci. Moi, je suis parti de l'histoire italienne et j'ai voulu restituer Gramsci dans l'histoire italienne. Pour le dire d'un mot, aller de Gramsci vers le gramscisme, et non pas comme très souvent, on a la démarche inverse, où on a la pensée de Gramsci, et au fond, l'homme, dans le meilleur des cas, on va vers lui, et souvent, il est un peu oublié, ou simplifié, ou transformé en une sorte d'icône de la révolution, icône communiste, ou au contraire, à l'inverse, quelqu'un qui aurait dépassé, balayé le communisme. D'où, si pas la première conférence, et je voudrais vous faire part un peu d'un sentiment avant de vous parler, d'entrer dans le vif du sujet, pour avoir fait déjà quelques conférences sur ce livre. Au fond, j'ai un public souvent agréable et bienveillant, mais quelquefois déstabilisé parce qu'il a en tête déjà son Gramsci. Son Gramsci, alors, ou révolutionnaire, ou quelqu'un qui aurait déjà été libéral. Il y a des gens qui présentent un Gramsci libéral. Et au fond, moi, en essayant de restituer le plus objectivement possible ce personnage, avec sa force et ses faiblesses, dans son contexte qui était essentiellement un contexte italien, pas exclusivement, mais essentiellement, Gramsci vit l'essentiel de sa vie en Italie, à part 2 ans où il est en Union soviétique, c'est évidemment plus déstabilisant parce que cette histoire italienne, elle est un peu moins connue, surtout pour la période libérale avant le fascisme. Alors, précisément, Gramsci, c'est sa vie que j'entends présenter. Sa vie, ça ne veut pas dire des choses anecdotiques, c'est pas évident parce qu'au fond, Gramsci, c'est un homme qui est essentiellement un penseur et qui passe quand même près de 10 ans, un peu moins, de sa vie en prison. Croyez-moi que par rapport à une biographie de Garibaldi qui multiplie les aventures sur mer, sur terre, les conquêtes féminines, qui est à la tête, qui mène tant de batailles, etc., c'est beaucoup plus dur d'écrire sur quelqu'un qui, finalement, pense essentiellement, écrit, et ensuite termine sa vie en prison. Alors, je termine sa vie, non, puisqu'il meurt le jour de sa libération. Enfin, on peut dire qu'il a passé les dernières parties de sa vie dans une prison très dure sur laquelle, bien sûr, je reviendrai. Et donc, je fais finalement, on pourrait faire quelques effets comme au cinéma, en commençant par la fin pour faire un effet revenir au début, mais je crois que je vais me contenter de faire quelque chose de bien classique, y compris au regard du public étudiant ici qui m'a fait l'amitié de venir m'écouter en présentant les grandes étapes de la vie de Gramsci, sans entrer dans le détail, puisque si j'entre dans le détail, je me tire une balle dans le pied, puisque à partir de là, le livre n'est plus vendu, il n'y a plus besoin, et donc là, ma vanité d'auteur en souffrirait. Alors, plus sérieusement, le Gramsci, c'est, au fond, on pourrait faire par grande étape, le premier Gramsci, chronologiquement, c'est un Gramsci qui est lié à l'île de Sardaigne. Gramsci est sarde, d'ailleurs son nom même est sans doute un nom, alors l'origine est sans doute une famille d'origine albanaise lointaine, mais qui est une famille qui s'est enracinée dans le sud de l'Italie, et en particulier par sa mère dans la Sardaigne. Et je crois que là, on n'est pas du tout dans l'anecdote, parce qu'il vit la première partie de sa vie, c'est-à-dire en gros jusqu'au moment où il va à l'université de Turin, c'est-à-dire jusqu'à l'âge adulte, pour faire simple, il le vit dans cette île de Sardaigne. Et évidemment, c'est important parce que ça façonne sa sensibilité et ça façonne aussi son, je dirais, sa mentalité, ses premières conceptions politiques. Alors, en Sardaigne, il est issu d'une famille, il y a eu longtemps la présentation de... de quelqu'un qui aurait été issu d'un milieu très pauvre. Non. C'est un milieu déclassé, plus exactement que pauvre. C'est-à-dire que c'est un milieu où le père et la mère savent lire et écrire. Alors, les hommes, c'est un peu plus fréquent, même si dans le Sud, il y a un taux d'analphabétisme important. Gramsci naît en 1891. Chez les femmes, c'est beaucoup plus rare, puisqu'on estime à 6-7% le nombre de femmes sardes qui savait lire et écrire. Il est dans un milieu qui sait lire et écrire. Et je crois que là, on a tout de suite un élément très important, c'est le poids de la culture, c'est le poids vivre, c'est aussi comprendre par le savoir, par la culture. Et là, il y a quelque chose de fondamental, et si on veut voir une permanence chez Gramsci, c'est ce goût véritablement pour le savoir, et là, il sera, sa vie durant, intransigeant par rapport à cette chose. Bien sûr, il faut adapter le discours. On n'écrit pas, quand il écrira des lettres assez émouvantes, d'ailleurs, à ses fils, lorsqu'il sera en prison, il adapte. Évidemment, il fait comprendre des choses du monde à travers un discours politique plus simple, en utilisant des métaphores, des animaux, etc. Mais quand il sera journaliste, pas de prose facile. On écrit de la manière la plus précise, la plus rigoureuse possible, et il n'y a rien de plus qui vomit que ce journalisme facile, et cette exigence culturelle, il la reçoit de l'enfance, il la reçoit de ses parents, et en particulier de sa maman, avec lequel il a un lien particulièrement fort, les rapports avec son père étant beaucoup plus complexes, puisque son père est un personnage un peu fantasque, qui a connu aussi des vicissitudes difficiles, puisqu'il a été en prison pour un problème de dette, où il a payé surtout des choix politiques qui ont pu être faits. Donc c'est une enfance difficile, avec un père qui passe une partie durant son enfance en prison. Mais cette difficulté, je dirais matérielle, est compensée par des liens de solidarité extrêmement forts au niveau familial et au niveau de la communauté villageoise, et plus généralement de l'insularité au niveau de ces liens très forts qui peuvent lier entre eux les Sardes. Et à cela, il va rester sensible sa vie durant, non pas pour reproduire une sorte de communisme primitif qu'il aurait pu vivre en Sardaigne, mais cette forme de solidarité, il va chercher toujours à la recréer, et il va au contraire souffrir dans ses premières années à Turin, d'une extrême solitude qui va contraster avec ce soutien très fort qu'il pouvait recevoir auprès de sa famille et auprès des gens de son village. Mais derrière cette vision positive de la Sardaigne, qui est aussi celle des senteurs, des paysages qui façonnent sa sensibilité, il y a aussi une Sardaigne qui est celle de la misère, celle de l'exploitation. Et cette exploitation, elle est extrêmement marquée, parce qu'elle se double non seulement d'une misère paysanne traditionnelle, d'un analphabétisme encore plus marqué que dans le nord de l'Italie, mais elle se double aussi d'une lecture à l'époque qui consiste à faire des méridionaux, et particulièrement des Sardes, des gens, j'emploie ce vocabulaire politiquement incorrect, des barbares, des attardés, des non-civilisés, que le nouveau royaume d'Italie, qui est né en 1861, donc vous voyez qu'il est né une génération avant Gramsci, qui est né en 1891, se doit de civiliser. C'est-à-dire civiliser, porté aux normes de l'État-nation moderne. Et ça, ça passe aussi par une forme, effectivement, de mépris, ou au mieux de paternalisme à l'endroit des Sardes. On trouve un peu ce même phénomène dans le sud de l'Italie, moins marqué en Sicile, qui a une histoire plus complexe et entre guillemets plus glorieuse, plus célèbre que celle de la Sardaigne. Et les premiers engagements du jeune Gramsci, qui soit dit au passage par le sarde. Écrit certes italien, mais avec beaucoup de sarditude, si vous me passez ce deuxième néologisme, avec beaucoup de traits, de plumes sardes, ses premiers combats vont être justement contre cette lecture imposée de l'extérieur. Hein, il va reprendre un petit peu comme mot d'ordre à la mer les continentaux, qui était un des mots d'ordre des indépendantistes sardes qui disaient « laissez-nous notre propre chemin ». Évidemment, il ne va pas rester sur ce schéma séparatiste, mais ses premiers combats sont nourris de cette culture politique. Le jeune homme les premières étapes de sa vie vont être un long et douloureux chemin vers une sorte d'italianisation. Gramsci va vite comprendre qu'il est provincial, mais dans le sens provincial extrêmement fort que cela peut revêtir en Italie, c'est-à-dire provincial, c'est pas coupé de Rome, la capitale, c'est pas comme en France, la province est Paris. Non, provincial, ça veut dire coupé de la circulation culturelle importante qui se fait en Europe. Coupé des grandes idées. Et ces grandes idées, elles sont portées par qui ? Elles sont portées par les grands intellectuels libéraux. C'est pour ça qu'on peut parler d'un Gramsci, dans un premier temps, libéral. Parce que les grandes figures qui portent ça ont pour nom Benedetto Croce, Giovanni Gentile, qui n'est pas encore le chantre du fascisme, ou Luigi Einaudi, peut-être ces noms-là vous sont-ils familiers, qui deviendra président de la République en 1948, bien plus tard, qui est un des principaux économistes italiens. Croce, c'est le grand philosophe idéaliste, et Gentile, c'est le prince de la jeunesse, il séduit absolument tout jeune. Et on a ce jeune Gramsci qui découpe les articles de journaux, qui les colle, qui a déjà d'ailleurs cette technique de travail qui va tant lui servir en prison, d'ordonner, de couper la page en deux, les idées personnelles, les idées générales. On va voir que c'est cette forma mentis qu'il prend dès le plus jeune âge va lui être très utile lorsqu'il sera en prison. Et ses premiers combats sont donc les combats, il épouse un peu la cause des libéraux. C'est-à-dire, il dit, il faut que je me déprovincialise, je m'élève au niveau au moins des Italiens les plus cultivés, des libéraux, et comme ça je vais pouvoir rattraper et rejoindre la circulation des grandes idées. Quel est le grand penseur des libéraux italiens en cette fin de 19e et en ce début de 20e siècle ? C'est Hegel, principalement. C'est un Hegel, certes... est-ce qu'il y a d'ailleurs un seul Hegel ? Il y a un Hegel de gauche, il y a un Hegel de droite, il y a des jeunes Hegeliens, je parle sous le contrôle de Jean Numa en Allemagne, c'est pas la même chose qu'une lecture conservatrice d'Hegel. Mais c'est la circulation des idées, c'est l'importance de la société civile, c'est l'État comme moyen de porter, la civilisation, de porter un peuple au standard de la plus grande modernité. Il est donc à l'école du libéralisme. Est-ce pour autant que les idéaux socialistes, qui vont évidemment être les siens, ne le touchent pas ? Il commence à le toucher, en particulier par son frère. Il a plusieurs frères, il est d'une famille nombreuse, il a des frères et des sœurs, et un de ses frères commence un engagement auprès du socialisme, du Parti socialiste, et il commence à faire une rencontre avec le prolétariat de Sardaigne. Il y a bien un prolétariat en Sardaigne, entre autres, autour des mineurs, il y a des mines en Sardaigne, et donc là, il va commencer à comprendre, et en particulier, il va voir le côté très féroce des répressions, puisqu'il y aura là des premières grèves nationales qui vont naître précisément de la répression qui est faite, on disait en italien, la cure de plomb, c'est-à-dire on tire, la cure de plomb, pour résoudre la question sociale face à ces ouvriers des mines qui réclament de meilleures conditions de travail, etc. Donc, loin d'être périphérique, la Sardaigne va attirer l'attention, je dirais, des socialistes, et pas d'ailleurs des socialistes simplement italiens, mais de l'internationale socialiste, c'est-à-dire de la deuxième internationale. Et ça, je crois qu'évidemment, c'est important, parce que Gramsci, par là même, va commencer à un peu... mettre un peu de socialisme dans sa culture libérale, même si elle reste un fond important de sa culture. Il convient, pour être le plus complet, non, mais ne pas oublier de choses essentielles sur cette période de son enfance et de son adolescence en Sardaigne. Là, c'est loin d'être anecdotique, rappelez que c'est un homme qui est quelqu'un qui compense par la force de l'esprit des souffrances physiques extrêmes. On a choisi l'image iconique. Alors, pour la petite histoire, ils se sont trompés. Le fond devait être jaune et la tête rouge. Mais bon, alors, je ne sais pas si ça prend mieux. Mais ça, c'est l'image iconique. C'est comme le portrait de Che Guevara ou le portrait de Garibaldi. On a là le visage lumineux, une très grande chevelure. On l'appelait le petit Samson, Sansone, d'où en italien, parce qu'il avait une très belle chevelure, un très beau visage. Tous les témoignages, y compris en prison, témoignent de cette espèce de force qu'il avait dans le regard. Mais à côté, c'est un homme qui mesure 1m50, qui est bossu, parce qu'il souffre, ça sera diagnostiqué tardivement, d'une tuberculose osseuse que l'on appelle le mal de Pott, et qui le fait souffrir horriblement, et le pauvre médecin du village ne diagnostique pas, et il va connaître une série de souffrances, dont on va vouloir lui étirer le dos par la part de force, enfin. Et en gros, il va souffrir énormément, on le croit mort un moment, il y aura un petit cercueil qui restera dans le coin de la maison pour témoigner jusqu'à ses 20 ans de cette souffrance qu'il y a pu y avoir. Donc vous voyez quelque chose extrêmement lourd, un corps qui est une prison pour Gramsci. Un corps qui est une prison, c'est une véritable souffrance, et dans ce sens-là, il a un point commun avec un autre grand Italien, peut-être que vous connaissez, qui est le grand poète Giacomo Leopardi, qui souffrait lui aussi d'ailleurs de la même maladie, mais encore sous une version plus grave, puisqu'il en souffrait, ça l'a rendu aveugle à la fin de sa vie. Mais Leopardi avait une chance, c'est qu'il était d'un milieu noble, très riche, et qu'il avait à sa disposition une très très grande bibliothèque, là où Gramsci doit travailler très jeune, doit interrompre ses études qu'il reprendra pour porter, raconte-t-il, de très lourds registres qu'il peut à peine porter, petit bout de chou qu'il est, 1m50, déjà bossu, des très lourds registres, vous savez, du cadastre. Il y a le cadastre qui se met en place, parce qu'il n'y avait pas de cadastre, et on met en place un cadastre, c'est aussi une forme de l'État-nation, et il faut porter les lourds registres comme ça, et il travaille ça, et ça rapporte un pain qui permet de nourrir une partie de la famille. Pas le misérabilisme, c'est pas l'enfant misérable, abandonné, mais vous le voyez, une souffrance du corps, un besoin de travailler, les livres, il y en a très peu. Et donc, indéniablement, il y a ce besoin de compenser toute cette misère physique par la culture, par le savoir. Je crois que c'est un peu le premier Gramsci, les premiers aspects importants du Gramsci sarde. Gramsci, parce que c'est un bon élève, gagne une bourse pour aller faire des études à Turin, à l'université de Turin. Et là, c'est la deuxième phase de la vie de Gramsci qui s'ouvre au moment où l'Italie entre en guerre, en 1915, entre en guerre aux côtés, vous le savez, de la France et de l'Angleterre. Gramsci arrive à Turin et là, il a une bourse. Lorsque la bourse arrive, ses parents sont tout contents, se disent « voilà, avec ça tu vas vivre formidablement », sauf qu'à Turin, c'est la découverte de la ville la plus moderne d'Italie. Au point d'ailleurs que Gramsci, de manière intéressante, dira « Turin n'est pas une ville italienne, c'est une ville, déjà c'est la ville industrielle, ça va être la ville, comme vous le savez, de la Fiat, qui va connaître un fort développement pendant la Première Guerre mondiale, non seulement fabriquer des voitures, mais des tanks et déjà les premiers avions italiens. Et donc, il arrive d'une Sardaigne rurale, dans laquelle il est pauvre, oui, mais dans laquelle il y a un cocon familial, une protection, une solidarité entre les membres de la famille et plus généralement de la petite ville, dans une ville où il est totalement seul, froide, une ville froide au sens même par le climat, hein, il y a sans cesse, où très vite sa bourse va être totalement insuffisante, où là il va vraiment survivre. Et ça va évidemment se traduire, ce fait de survivre, par l'aggravation de ses souffrances physiques. En gros, c'est quelqu'un qui ne mange pas à sa faim, qui ne se chauffe pas, qui marche dans sa chambre les nuits pour se réchauffer, et qui va d'une certaine manière développer, on pourrait presque employer ce terme, un goût pathologique pour la lecture, pour le savoir, mais on le voit bien qu'évidemment, c'est un besoin de se cultiver, de s'italianiser, de rejoindre la grande culture, mais c'est aussi parce que c'est pas du tout l'étudiant bohème, hein, l'étudiant... Non, c'est véritablement un étudiant très solitaire, très pauvre, très malheureux. Hein, c'est sans doute, on a des lettres extrêmement tristes. Alors, il ment un peu, il atténue pour sa maman ses souffrances, mais pour sa sœur, il se livre véritablement. Et au fond, qui a du mal à faire ses études, c'est-à-dire il ne pourra pas les conduire au bout, non pas du tout par un manque de travail ou une insuffisance intellectuelle, mais simplement par la faim, par les difficultés matérielles qui compliquent énormément, énormément la poursuite de ses études. Néanmoins, quel type d'études fait-il ? Il fait des études, on appelle ça en italien de glottologie, on dirait aujourd'hui de linguistique. Et il s'y montre particulièrement brillant, au point que son professeur veut le conduire en laurea, la thèse italienne, voudrait qu'il devienne quelqu'un qui se spécialise dans cette matière. Et c'est très intéressant, je m'arrête 2 minutes sur ça, parce que ça nous permet de comprendre aussi mieux le Gramsci de la suite. Il est très sensible à la langue. C'est une notion absolument centrale. Et il y a 2 grandes écoles autour de cette linguistique en Italie. Il y en a une qu'on appelle formelle, qui insiste beaucoup sur la formation des phonèmes, en particulier par rapport à l'anatomie humaine. Et puis il y en a une qui est celle de Gramsci, qui insiste beaucoup, quant à elle, sur la dimension historique de la langue. C'est-à-dire qu'une langue, elle dépend d'un milieu, elle dépend d'une évolution historique. Évidemment, Gramsci s'inscrit dans cette seconde approche, hein, et en ce sens-là, son historicisme, c'est-à-dire son approche des idées de la culture à travers la dimension diachronique, à travers la dimension de l'histoire, est extrêmement prégnante dès cette époque à travers son objet d'étude qui est la langue. Et c'est très intéressant, en particulier, il va être pour son maître une source très importante pour comprendre la langue sarde. Et on a des lettres comme ça où il demande à sa sœur de lui décrire très précisément toute la fabrication du pain, de la récolte jusqu'au sac de farine et le pain, en sarde, quels mots on utilise. Et là, on voit la rigueur, il fait des petits dessins, il explique chaque pièce du moulin, la signification, et avec son professeur, on en cherche l'origine dans le latin ou d'autres langues, puisque vous savez que le sarde n'est pas qu'une langue, n'est même pas une langue d'origine latine, hein, le sarde. C'est quand vous allez en colloque en Sardaigne, il y a toujours la dernière relation qui est en sarde. Là, vous pouvez vous débrancher parce que vous ne comprenez rien. Il n'y a pas des mots latins, comme vous voyez, quand on sait en calabrais ou en sicilien. Là, on peut deviner, si on sait l'italien, le sarde, à moins de le connaître, vous ne pipez mot. Donc, il est là, voyez, dans ce type de travail. Et pourquoi je disais c'est important ? C'est qu'au fond, une des grandes idées de Gramsci est liée à ce travail de la langue. Les premiers cahiers de prison qu'il fera, j'y reviendrai sur les cahiers de prison, ce seront 4 cahiers de traduction. C'est donc, il s'exerce de quelle manière ? Il s'exerce en faisant, comme ce qu'il faisait dans sa jeunesse, des traductions en s'intéressant à la linguistique. Et plus fondamentalement, si on avait finalement à dire la grande importance de Gramsci politique, c'est qu'il tente de traduire, et il faut prendre le mot dans son acception comme un traducteur de langue, là, l'expérience russe, donc l'expérience des soviets, en Italie. Qu'est-ce que ça veut dire traduire l'expérience soviétique en italien, en Italie? Et ça, c'est les nouveautés de la critique qui ne nous viennent pas tant de nos amis, ni philosophes, ni historiens, mais de nos amis, de collègues linguistes, qui insistent beaucoup, ça, l'italien, cette capacité de forger des mots, sur la traductibilità, la traductibilité, ça fait le 3e néologisme, il faut que j'arrête, de cette notion au cœur de la démarche de Gramsci, qui d'ailleurs étudiera la linguistique soviétique grâce à sa femme, qui pourra lui traduire des ouvrages. Donc, voyez, c'est un fil rouge de son idée, mais c'est loin d'être un hobby. Vous voyez, je fais de la traduction ou je m'intéresse à la linguistique. C'est au cœur de sa démarche. Comment traduire ? Comme journaliste, comment traduire les idées socialistes et les idées marxistes pour les faire comprendre au lecteur ? Comment traduire l'expérience soviétique en italien ? Or, il y a 2 manières de concevoir la traduction. Il n'y en a toujours que 2. Ou on est sensible à la langue d'origine, ou on est sensible à la langue de réception. Vous êtes bien d'accord. C'est pour ça qu'on demande toujours à quelqu'un de traduire. Très souvent, on demande, si c'est une traduction française, à un Français de traduire. Si c'est un Italien, on demande à un Italien. Ça veut dire que très souvent, on est plus sensible à la logique de la langue de réception. Et Gramsci s'inscrit pleinement dans ce courant. Comment faire passer en italien l'expérience soviétique? Qu'est-ce qu'il y a en Italie au niveau des mentalités, au niveau des institutions qui pourraient permettre de faire un embryon de soviet et de lancer la révolution? Et ça, je crois qu'il y a, c'est une très très forte originalité de Gramsci et intellectuelle, et on va le voir, il va essayer de le faire appliquer politiquement lors de l'expérience de l'ordinaire nouveau. Gramsci à Turin, c'est donc cet étudiant pauvre, mais qui se cultive, qui va au cours, qui travaille, qui commence à faire des rencontres. Deux rencontres importantes. Une, c'est avec Palmiro Togliatti, qui deviendra le leader du Parti communiste. Et il y a un lien là sur lequel je m'arrêterai deux minutes. Et un autre personnage, Angelo Tasca, qui est le papa de Catherine Tasca, hein, qui a été ministre et puis présidente du CSA, je crois, qui est un personnage très important parce que lui, ils vont le tirer un peu de sa solitude. Et puis surtout, Tasca, qui a son âge, hein, Togliatti, Gramsci, Tasca et Terracini, je les ai appelés les quatre mousquetaires, parce que c'est bien connu, et bien, ils ont à peu près le même âge, des origines sociales globalement comparables, et ils vont tous les quatre s'engager dans le socialisme. Mais là, Tasca va jouer un rôle très important parce que Tasca est très sensible à la dimension des syndicats et va emmener Gramsci vers le prolétariat qu'il ignore, qu'il ne connaît pas et qui précisément est si important à Turin, ville de la Fiat. Et Gramsci va commencer à prendre contact avec ce nouveau personnage de l'histoire qui est le prolétariat moderne. J'insiste sur cette dimension, le prolétariat moderne de Turin. Ce sont des ouvriers d'usine, ce n'est pas le prolétariat où on fait du travail à la maison, ou même le premier prolétariat qui s'est développé, même s'il est encore important à Turin, autour du textile. Là, on a un prolétariat qualifié. On a, pour reprendre un vocabulaire qui, à un moment, avait eu son importance au 19e et encore au début du 20e, l'aristocratie ouvrière. Alors, c'était des typographes, bien sûr, ils sont toujours là, mais là aussi, on est à la frontière entre l'ouvrier qualifié et le technicien. Hein, et ça va durer longtemps, puisque dans les années 50, 60, la bourgeoisie turinoise, si la fille d'un bourgeois turinois se mariait avec un ouvrier piémontais, c'était nullement déchoir. Socialement, j'entends. Hein, parce que c'était la garantie d'un bon salaire, de quelque chose, d'une position même sociale, honorable. Je ne veux pas tomber dans une présentation à l'eau de rose des rapports de classe des Turins des années 50-60, mais indéniablement, c'est une chose qui existait de manière indéniable. Et Gramsci va se lancer dans la politique, ou plus exactement dans le journalisme. Il faut bien comprendre que Gramsci à Turin, il est d'abord un journaliste. Un journaliste où il travaille dans la page turinoise du grand journal socialiste qui s'appelle l'Avanti, Avanti en avant, avec un point d'exclamation pour mieux renforcer la chose, où il écrit des rubriques où là tout son génie va commencer, son génie intellectuel j'entends, va commencer à se manifester. Ce ne sont pas des articles sur des grands sujets politiques. C'est quoi les grands sujets politiques à l'époque? C'est les problèmes politiques, c'est les problèmes de la guerre. C'est des problèmes géopolitiques. Alors, d'une part, c'est difficile d'écrire parce qu'il y a Dame Cisaille, hein, où il y a les ciseaux de la censure, hein, qui passent et qui coupent les articles de fond. Lui, il va écrire sur les choses de la vie quotidienne, sur la vie culturelle de Turin. Mais à partir de là, va se manifester toute une série d'analyses qui vont faire la force de Gramsci. J'en prends simplement un seul exemple parce que je vois le temps qui court et il faut quand même que on aille jusqu'au bout de la vie de Gramsci. Pirandello, il va être un des premiers à souligner le génie du théâtre de Pirandello. Il y en a d'autres, hein, mais il est un des premiers à comprendre ça. Alors qu'il n'aime pas le théâtre dialectal. Alors Pirandello écrit une partie de son théâtre en dialecte sicilien. il va être un des premiers à faire des analyses très fortes du mélodrame, en critiquant le mélodrame, pour montrer justement à côté le génie de Pirandello par rapport à ce mélodrame qui représente les valeurs les plus éculées du temps et de la bourgeoisie. Il est donc très sensible à une série de choses et il s'agit pour lui d'élever avec une grande exigence au niveau du style, au niveau de la langue, d'élever le prolétariat au plus haut standard possible. Et il récuse toute forme de prose qui irait dans le sens de la facilité, dans le sens du poil, si vous me passez cette familiarité, pour une presse qui existe chez les socialistes, qui n'hésite pas à utiliser le gros mot, l'expression, la comparaison facile, il s'y refuse toujours. Il a ce niveau d'exigence. Et commence à se nouer des relations difficiles avec une partie des dirigeants socialistes. Et là, on retrouve aussi le Gramsci-Sarde, parce qu'une partie des dirigeants socialistes du Nord sont plutôt favorables à faire une alliance avec la bourgeoisie progressiste qu'une alliance avec le prolétariat, et surtout, plutôt faire une alliance progressiste entre le prolétariat du Nord et la bourgeoisie du Nord. Parce que cette bourgeoisie leur apparaît comme progressiste, là où la paysannerie méridionale, sarde en particulier, apparaît arriérée, et au fond incapable de comprendre le socialisme. Et ça, Gramsci, comme Sarde, et déjà comme socialiste, et bien sûr ensuite comme communiste, et là on peut dire que le symbole, le marteau et la faucille, c'est le marteau des ouvriers du Nord et c'est la faucille des ouvriers du Midi, est déjà sensible à cette thématique, et dit ça c'est pas possible, cette lecture un peu méprisante, un peu condescendante qu'on peut avoir les socialistes du Nord face aux braccianti, aux manouvriers, ceux qui travaillent avec leurs bras dans le sud de l'Italie, il la récuse fondamentalement. Et un de ses premiers gestes politiques forts, c'est de présenter la candidature avec d'autres tascas, d'un grand historien qui s'appelle Salvemini, qui est un député qui a été battu à la suite de malversations et qui représentait les paysans des Pouilles. Donc vous voyez où sont les Pouilles, dans le sud-est de l'Italie. Et on décide... les socialistes, les jeunes socialistes, décident, à un moment où il y a un siège vacant, je vous fais grâce de la petite histoire, dans un collège électoral de Turin, ouvrier, de présenter Salvemini en disant « Nous présentons le candidat des paysans des Pouilles à vos voix, vous, ouvriers italiens. » C'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est typiquement la liaison entre le prolétariat du Nord et les ouvriers agricoles, la petite paysannerie du Sud. Et là, on trouve un thème très important chez Gramsci, c'est sa grande sensibilité à la question méridionale, dont il va être jusqu'au bout, et là, dont il est encore considéré c'est un passage obligé, lorsqu'on étudie l'histoire italienne, de faire référence aux écrits de Gramsci. Le dernier grand essai qu'il fait avant d'être emprisonné, c'est un texte inachevé, mais qui est quand même tout à fait structuré autour de cette question méridionale, dont il dit c'est la question nationale italienne. L'alliance entre le Nord et le Sud, c'est l'alliance entre le prolétariat du Nord et la bourgeoisie du Sud, là où c'est la grande question sur laquelle butent tant et tant d'intellectuels, hier, comme d'ailleurs aujourd'hui, je pense que vous avez entendu parler de la Lega Nord, par exemple, qui, d'une certaine manière, n'a pas lu sans doute beaucoup Gramsci. Je vois mon collègue italien qui me le confirme par un geste sans ambiguïté, en levant ses sourcils, qui ne l'a pas lu. Et précisément, dans son discours raciste contre le Midi italien, n'entend pas du tout, ne voit pas du tout cette dimension de la question nationale italienne, c'est-à-dire cette question, oui, de l'arriération du Sud qu'il ne nie pas, mais précisément à laquelle il faut apporter une réponse politique qui ne passe pas simplement par imposer les standards qui sont ceux du Piémont, qui sont ceux de l'État dominant. Gramsci s'est donc fait un nom, et il va surtout se faire un grand nom, après la Première Guerre mondiale, par un épisode sur lequel je m'arrête 2 minutes, parce que c'est important. C'est l'épisode de l'ordine nuovo, l'ordre nouveau. Alors attention, évidemment, ce mot « l'ordre nouveau » en France sonne peut-être pas vraiment plus noir que rouge. Mais là, l'ordre nouveau, c'est le terme, l'ordine nuovo, c'est le nom du journal qu'il fonde, et qu'il fonde avec d'autres, mais dont il est de fait le directeur et, je dirais, la principale plume. Et surtout, il y a cette tentative d'appliquer concrètement dans les usines de Turin, en utilisant quelque chose qui existait, qu'on appelait, qui était une commission interne. Il utilise une structure qui existait pour permettre aux ouvriers, au patronat de discuter, donc c'était déjà assez moderne, d'une sorte d'instance paritaire. Il l'utilise pour en faire le noyau du soviet. C'est avec un peu la Bavière de Kurt Eisner, peut-être quelques expériences en Hongrie, une des rares expériences en Europe occidentale, de tentative de faire comme en Russie. C'était le mot d'ordre, faire comme en Russie. Mais là, on fait, les usines tournent exclusivement avec les ouvriers. Alors elles tournent pas à plein régime, mais elles produisent à peu près la moitié des voitures qu'elles produisaient, sachant qu'il n'y a aucun technicien qui vient travailler et sachant que très vite les matières premières vont manquer. Donc on a là une expérience in vivo de réalisation, alors c'est pas exactement une réalisation soviétique si on veut, mais très proche de l'expérience soviétique. Et là, évidemment, l'ordinaire nouveau va avoir une résonance, même si l'expérience est courte. Dieu merci, elle ne se termine pas dans le sang, grâce à l'habileté de Giolitti, qui est président du Conseil, qui finalement manœuvre les choses. Les ouvriers partent déçus. Vraiment, il y a un très beau texte de Gramsci où il dit « c'est ces hommes de chair ». Et bien oui, à un moment, il faut aussi qu'ils mangent, même s'il y a une formidable solidarité internationale. Des fonds sont venus du monde entier, y compris des États-Unis, pour soutenir cette expérience. Mais à un moment, elle est perdue. Heureusement, pas dans le sang. Mais en tous les cas, ça a été une expérience extrêmement déterminante, au point que certains, moi je ne partage pas ça, mais au point que certains font de l'ordinaire nouveau l'expérience déterminante et la plus originale du gramschisme. Gramsci, évidemment, va choisir en 1921, face aux hésitations du socialisme révolutionnaire en parole, réformiste en pratique, pour le dire un peu rapidement, va choisir, lors de la scission, tout, vous le savez, à partir de la révolution bolchevique, tous les partis socialistes éclatent entre un courant qui reste attaché à la Deuxième Internationale, pour faire rapidement, et un courant qui adhère à la Troisième Internationale et qui devient... Ici, section française de l'Internationale communiste, la section italienne, alors en Italie, c'est le Parti communiste d'Italie, qui naît peu de temps après le congrès de Tours, quelques mois après, en janvier 1921, à Livourne, et Gramsci en est dans les membres fondateurs. Mais attention, il est dans les membres fondateurs, c'est vrai, mais il passe nettement au second plan, y compris d'ailleurs par... C'est pas un orateur, je crois qu'il faut insister aussi sur cette dimension, Gramsci n'est pas un orateur, n'est pas un homme de foule. Sachez qu'à l'époque, il n'y a pas le micro non plus. Ce n'est pas un homme de foule, ce n'est pas un tribun. C'est quelqu'un qui cultive pendant le moment où naît le Parti communiste et qui cultivera ensuite toujours les petits cercles. C'est toujours, il forme toujours des petits cercles. Même en prison, il aura comme ça des petits cercles où on travaillera. Il fera lire à tel ou tel prisonnier tel ou tel livre et il faudra échanger. Il privilégie là le petit groupe, il a vraiment une vocation de pédagogue. Là où d'autres sont beaucoup plus des tribuns, c'est pas un tribun, c'est un pédagogue. Il est très à l'aise dans les petits groupes, dans les choses, sa voix ne porte pas, il n'est pas un grand orateur. Au moment, le grand homme, l'homme fort, c'est Bordiga. Lui, Bordiga, c'est pas du tout quelqu'un, c'est une véritable pensée, mais c'est une pensée autour du parti. Ce qui compte, c'est le parti. Si on a un petit parti, mais de militants solides, c'est ça qui compte. Le reste, le parti contre tous. Peu importe, tous les autres, on les gomme. Du moment qu'on est un groupe, un parti solide, c'est ça. Et quand vous voyez les écrits de Bordiga, ils tournent tous autour de ça. Là où Gramsci est beaucoup plus sensible dès le départ, certes, il dit qu'il faut un parti, il faut des hommes décidés, mais sensible à des jeux d'alliance. Pourquoi ? Parce que monte une nouvelle force. Et j'en arrive évidemment à un nouveau temps. Cette nouvelle force qui monte, c'est le fascisme. Alors le fascisme, dans un premier temps, Gramsci ne le voit pas directement parce qu'il part en Union soviétique. Il part en Union soviétique parce qu'il a été repéré, ça c'est clair, par des agents de la Troisième Internationale. D'une certaine manière, il est, passez-moi la formule, recruté. Comme beaucoup d'autres, il est recruté. Pourquoi ? Parce que Lénine, qui en parle, et d'autres ont vu quelqu'un qui avait bien compris les choses et était en mesure finalement de pouvoir s'imposer face à Bordiga qui leur apparaît comme trop rigide. Certes, le camarade Bordiga est fidèle, etc., mais trop rigide. On comprend bien qu'il faudra des alliances plus larges, qu'il faudra plus de souplesse que n'en montre Bordiga. En plus, après Bordiga, les rapports sont très très tendus avec la Troisième Internationale, il sera exclu, etc. Et il part en Union soviétique, d'une certaine manière, comme représentant de l'Internationale communiste, mais là, il tombe tout de suite malade, il est mis dans un sanatorium, cherchez le mot. Pour l'histoire, c'est important, puisqu'il rencontre sa femme. En fait, Gramsci, c'est les sœurs Schurt. Schurt, c'est une famille russe. Et au fond, les trois sœurs, pardon, vont l'aimer. D'abord l'aînée. Ensuite, il va préférer la cadette, avec laquelle il va se marier. Alors, il ne va pas tout à fait se marier, mais l'Union soviétique va faire un faux mariage pour permettre à la troisième, Tatiana, de lui rendre visite lorsqu'il sera en prison. Donc, il est lié à trois femmes, à trois sœurs. Donc là, on pourrait tisser, il y a eu beaucoup de choses qui ont été tissées, des choses intéressantes, des choses un peu délirantes aussi. Mais il y a des lettres très intéressantes qu'on a longtemps attribuées à la deuxième, mais qui étaient en fait adressées à la première, qui lui en voudra toujours et qui sera d'ailleurs, manifestera une hostilité à Gramsci très forte en le coupant, en particulier avec ses enfants. Bon, il y aura des choses un peu tristes, mais on pourra revenir sur ce point. Deux comtes, sa femme Julia et surtout sa belle-sœur Tatiana, avec lequel on peut dire qu'il y a une relation très forte, platonique évidemment, Gramsci étant en prison, mais c'est la femme sans doute, moi je l'ai appelée l'Antigone, celle qui est contre tous les pouvoirs, c'est-à-dire contre le pouvoir fasciste, mais aussi contre le pouvoir en partie du Parti communiste qui l'abandonne, hein, pas mal quand même Gramsci en prison, c'est la seule qui est là tout le temps, qui le suit, qui lâche son travail, qui est là présente pour aller le voir, d'abord tous les 15 jours, puis tous les 8 jours en fonction des permissions, et dans les bras de qui d'une certaine manière il mourra. Donc c'est quelque chose, je crois, donc d'important évidemment dans sa vie. Mais il ne fait pas grand-chose en Union soviétique parce qu'il est essentiellement malade. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à témoigner de ce qui se passe. Évidemment, il est au courant. Et comme il a une forme de distance, il n'est pas sur le terrain par rapport aux autres qui doivent commencer à faire face aux répressions, parce que les fascistes, ils y vont avec leur manganello, leur bâton et leur huile de ricin, et puis les coups de feu, etc., les coups de force. Et les premières cibles, quand même, il n'y a pas que les communistes, mais les communistes sont dans le viseur, hein, des fascistes, d'autant plus qu'ils leur tiennent tête. Il commence à penser qu'il faut élaborer une stratégie antifasciste plus complexe que celle que propose Bordiga et le Parti communiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être seul contre tous et dire que tous ceux qui ne sont pas communistes sont liés plus ou moins aux fascistes. Vous savez, c'est des épithètes qui vont ensuite fleurir, de social-fasciste, etc. Ça commence à cette époque. L'International, à cette époque, est sur la même ligne que Gramsci. Attention, elle est plutôt sur des fronts, ce qu'on appelle le front uni. Ce n'est pas l'époque des fronts populaires, ça c'est les années 30, c'est l'époque des fronts unis. Et donc, Gramsci est bien l'homme de l'International, mais il l'est. N'en faisons pas à quelqu'un une marionnette de l'International, il l'est parce qu'il partage la même analyse que l'International à l'époque, c'est-à-dire plutôt des stratégies larges de front uni, d'alliances assez larges des antifascistes. Certes, les communistes doivent garder leur identité, mais faire un front assez large. Et c'est cette thèse que l'on trouve dans le congrès en exil du Parti communiste à Lyon en 1926, où là, Gramsci s'est imposé, avec le soutien de l'International, comme le dirigeant de ce mouvement. Il est le dirigeant du parti, et les thèses de Lyon traduisent sa pensée politique, son méridionalisme, son attachement à la question méridionale, à l'alliance entre le prolétariat du Nord et la paysannerie du Sud, et à un vaste front antifasciste. Certes, je le répète, les communistes gardent leur spécificité, mais sont prêts à nouer des alliances larges. Et ça va dans le sens encore de l'International à cette époque. Gramsci est arrêté, et c'est la dernière partie de sa vie. Il est arrêté le 8 novembre 26 et il va être dans un premier temps relégué dans une île en Sicile, Oustica, fait un peu penser à l'île du Grand Bleu, si vous voyez. Mais c'est la période la plus heureuse de sa prison. Il est un mois, il forme une école avec d'autres cadres du parti, dont Bordiga. Par rapport à ce qu'il va endurer ensuite, c'est un peu l'âge d'or comme prisonnier. Il pense, c'est pas la première fois que des militants communistes sont arrêtés, il pense qu'il ne va pas l'être trop longtemps. En plus, il l'a été au nom d'un décret qui est voté après son arrestation. le fasciste ne s'embarrasse pas trop de la légalité. Enfin, il y a quand même un dirigeant fasciste qui a refusé de signer, ça vous donne une idée. Bon, bref, je vous laisse lire. Et là, il va connaître un procès dans lequel on trouve cette phrase assez célèbre, mais dont on n'a pas de preuve. Il faut empêcher ce cerveau de travailler pendant 20 ans. Que la phrase soit véritable ou pas, elle reflète la pensée de Mussolini. Et Mussolini avait eu affaire directement à Gramsci, au Parlement italien. Parce que Gramsci s'était fait élire député. Alors, pas de Sardaigne, j'entends une poule. Pas de Sardaigne, mais de Vénétie, si ma mémoire est bonne, oui. De Vénétie. Et il avait tenu un seul discours au Parlement. Mais ce discours avait fortement impressionné. Et d'abord, il l'avait tenu, il était seul, avec sa petite voix. Alors, les fascistes, dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait un peu fort en groupe, les fascistes parlaient fort, le couvraient d'injures, de crachats et quelquefois de coups. Matteotti, lui, le paiera de sa vie. Comme vous le savez, il sera assassiné. Gramsci, de sa petite voix, alors on présente souvent Mussolini comme ça, tendant l'oreille pour l'écouter. Il fait un discours parce que Mussolini vient de proposer une loi, enfin Mussolini, pas Mussolini, le ministre de la Justice, Rocco, vient de proposer une loi pour mettre fin, abolir la franc-maçonnerie en Italie. Gramsci n'est pas franc-maçon. Mais va défendre la franc-maçonnerie en disant, en vous attaquant à la franc-maçonnerie, vous vous attaquez au meilleur de la bourgeoisie italienne, parce que finalement, c'est la bourgeoisie, les francs-maçons italiens, qui ont fait l'unité italienne. Enfin, du moins, c'est un des principaux vecteurs de l'unité italienne. Et en vous attaquant à la franc-maçonnerie, vous vous attaquez d'une certaine manière au meilleur de la bourgeoisie italienne, et ensuite, vous allez condamner toutes les autres formes d'association. Et ce discours avait fortement marqué les esprits. On s'était dit, ce personnage-là, chef du parti, on ne le savait pas parce que c'était secret, mais c'est un personnage à surveiller et sans doute ça joue aussi beaucoup dans son arrestation. Il y a un procès compliqué avec un juge très retors, un très sale type qui ensuite d'ailleurs sera considéré comme un criminel de guerre pour ce qu'il a fait en Yougoslavie, mais qui trompe un peu Gramsci. Alors, ce que Gramsci est victime du syndrome de Stockholm, hein, vous savez, un peu où on se met à aimer son geôlier, son prisonnier. En tous les cas, il est un peu manipulé par ce juge. Et entre autres, ce juge lui met en avant deux lettres qui ont déclenché une polémique dont vous n'imaginez pas, outre-Alpes, l'importance. Il y a des centaines et des centaines de pages sur ça. Une lettre d'octobre 26 de 27 pardon d'un militant qui s'appelle Grieco, qui est un militant communiste important, dans lequel on trouve cette phrase: le parti fera tout ce qui est nécessaire pour toi. Ça peut sembler très anodin, ça peut sembler très positif, mais en réalité, évidemment, ça veut dire que œuvre à la libération de Gramsci le parti communiste. Vous me direz, c'est normal, sauf que Gramsci espérait une libération par un contact direct entre Moscou et Rome, c'est-à-dire par un traitement de sa question à un niveau entre les États, à un niveau diplomatique. En gros, on échangeait des catholiques prisonniers ou déportés déjà en Sibérie contre Gramsci. C'était quelque chose au niveau des États. À partir du moment où le Parti communiste s'en mêle, Mussolini ne peut pas dire « je cède à mon ennemi, je cède au Parti communiste ». Et donc, Mussolini ne donne pas suite à ça. Faute, maladresse, le débat est ouvert, et là je vous renvoie aux pièces que j'ai pu essayer de présenter le plus objectivement. Est-ce que c'est une faute sciemment du parti pour mieux enfoncer Gramsci? Est-ce que c'est une maladresse? Le débat reste ouvert, et croyez-moi, entre gramschologues, puisqu'on parlait, ça s'entre-déchire sur cette question. Certains en voyant, comme Darcy d'un trait de plume, c'est une simple maladresse, à d'autres en faisant des livres et des livres. Gramsci se trouve donc en prison, et les dernières années de sa vie sont en prison. Il est, plus que la prison, il va souffrir terriblement des transferts d'une prison à l'autre, des transferts extrêmement durs dans des cales de bateau. Il raconte un moment où il est enchaîné, vous savez, à peu près à un mètre, comme moi, entre moi et Jean Dumas. Mais Jean Dumas, c'est un épileptique au dernier degré, gravement malade, qui pousse des cris tout le temps. C'est un cauchemar, il est dans un wagon, il passe les Apennins en plein hiver, il est à deux droits de mourir de faim, et ses os, c'est un homme malade, hein, en garde un souvenir sa vie durant. Sa maladie s'aggrave, hein, j'ai essayé aussi de traiter ça avec l'aide de médecins pour voir un peu avec le vocabulaire de l'époque. Il est théoriquement mis dans une prison médicale, ça fait peur, une prison médicale comme telle. Alors certes, la médecine des années 30 n'est pas celle d'aujourd'hui, bien sûr, mais il est mal soigné, peu soigné. Et il est, moi je crois qu'on peut employer ce mot-là, alors torturé, évidemment, torturé, il n'est pas torturé, c'est pas à l'électricité, on ne lui met pas, je ne sais pas, toutes les tortures qui peuvent exister, l'homme n'a pas de limite pour ça, mais on l'empêche de dormir. En fait, ce n'est pas les directeurs, mais c'est les gardiens, bon, cette espèce de gars, cet intello, on n'en a rien à foutre, on l'empêche de dormir, on fait du bruit, on le réveille, sa chambre est fouillée plusieurs fois par jour, plusieurs fois par nuit. Donc, alors, il va obtenir des améliorations. C'est vrai. Et il va surtout obtenir la possibilité d'écrire qui n'est... Bon, le grand avantage qu'il va avoir, c'est d'avoir une cellule individuelle à un moment. Et il va pouvoir écrire, il va écrire ses fameux cahiers de prison. Il faut bien comprendre que ces cahiers de prison, ils sont écrits sur des feuilles séparées, numérotées. Chaque cahier, on numérote les pages. C'est pour ça que ça se présente sous forme de cahier, si vous les voyez. C'est assez émouvant. Pourquoi ? Parce qu'une feuille libre... ça peut facilement disparaître. Un cahier, les cahiers sont tous numérotés, très précisément, et sont très contrôlés. Et j'ai présenté, je ne le fais pas ici, mais on pourra le faire à travers un jeu de questions, comment les conditions matérielles de l'écriture, comment il a pu écrire ses cahiers de prison. Et évidemment, dans ces cahiers de prison, on trouve les grandes théories de Gramsci, la guerre de position valable, la fameuse théorie de l'hégémonie, sur laquelle on pourra revenir par des questions, hein, entre autres, c'est-à-dire gagner d'abord un combat au niveau des idées avant de gagner un combat au niveau politique, il y a une élaboration. Et vous comprenez que là, pour boucler la boucle, vous vous rappelez ce jeune Sardes, malade, souffrant, bossu, prisonnier de son corps. Par quoi on s'en sort ? Par la culture. Le prisonnier, malade, évidemment, cette maladie de Pote l'a affaibli, l'a aggravé. Il souffre d'un cortège de maladies que le grand hypochondriaque que je suis n'ose même pas vous décrire. Il lutte par quoi ? Là encore, par la force de l'esprit. Là encore, en écrivant. Il dit, il emploie le mot allemand, j'écris « Führewig » pour l'éternité, pour toujours. C'est vrai qu'il écrit. Il fixe ses pensées. Mais il faut bien comprendre qu'à travers ce qu'il dit, bien sûr, il fixe des choses théoriques, mais il écrit aussi par rapport aux enjeux de son temps. Ces cahiers de prison doivent être replacés dans le contexte dans lequel ils sont écrits. C'est-à-dire qu'ils sont des messages en direction de qui ? Pas de Mussolini, qui les a sans doute lus, mais de son parti et de l'Internationale communiste, qui là ont pris un virage avec la doctrine classe contre classe, puis surtout avec l'installation du stalinisme et l'aliment de tous les partis communistes sur le stalinisme, dont le parti communiste italien au congrès de Cologne de 1928. Là, il est contre cette stratégie. Pas parce qu'il dénonce, parce qu'il a déjà vu une chose. Il n'a pas tout vu du stalinisme. J'ai eu des questions, pourquoi il n'a pas protesté contre la condamnation ? Le goulag, il est en prison, c'est au geôlier, c'est les fascistes, c'est pas les communistes. Il ne peut pas savoir. Par contre, il a compris une dérive bureaucratique, c'est le mot qu'il emploie. Il l'a compris lorsque sont éliminés des Zinoviev, des Kamenev, des Trotsky. Il n'est pas du tout trotskiste, hein, je vous le dis. La révolution mondiale, ça, non. Il serait plutôt proche de gens comme Boukharine ou de gens comme ça. Mais de voir des Kamenev, des Zinoviev, Trotsky, qui ont été les pères de la révolution, éliminés, qui auraient complètement tort, ça, il n'admet pas. C'est le dernier échange qu'il a avec Togliatti. Et Togliatti lui dit « Non, tu comprends pas, t'es pas sur place, il faut suivre, ils ont tort, il y a une majorité qui a raison, c'est celle derrière Staline et d'autres. » Ça, il dit « Non, je comprends pas cette manière de discuter, etc. » Après, est-ce que ça aurait entraîné un anti-stalinisme foncier ? Je crois que oui, mais on ne peut pas, avec des scies, on ne mettrait pas en bouteille, je n'en sais rien. Mais indéniablement, il est sensible à cette dérive bureaucratique. Mais en tous les cas, il est contre la stratégie conduite par ses partis de cet isolement. Et entre autres, il dit que c'est complètement inadapté pour combattre le fascisme, qui n'est pas du tout une simple réaction de la bourgeoisie. Le fascisme ne peut se limiter à être une réaction du grand capital, comme c'est la doctrine officielle, et que le Parti communiste doit combattre tout seul contre tous, classe contre classe, rejetant tous les autres antifascistes comme étant finalement des fascistes larvés qui n'osent pas dire leur nom, ou des agents, des amis objectifs du fascisme. Et ça transparaît. Il y a des choses où il nous parle de Dante, On pourrait dire, il parle de Dante, il analyse Dante. Mais en réalité, il prend un personnage, ça je l'ai montré, vous pourrez le lire, je crois l'avoir prouvé avec d'autres, bien sûr, où ce personnage de Dante, on peut sembler, c'est une manière de tromper aussi la censure, il parle de Dante, Dante c'est le Moyen-Âge, bon, on est loin des problèmes. Oui, mais sauf que le personnage qu'il prend, c'est un personnage qui dit, moi je veux juger le présent. Et ça, vous croyez-moi, quand ça arrive, on ne s'y trompe pas, ça veut dire, j'ai encore mon mot à dire, parce que je suis encore toujours théoriquement le chef du parti. Et la ligne que vous suivez n'est pas la bonne ligne. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Je ne veux pas dire tous les cahiers de prison. Ce n'est pas une écriture codée ou chiffrée. Vous voyez, tu prends la troisième lettre, la quatrième lettre, et ça forme un mot. C'est une écriture qu'on appelle ésopique. Alors, c'est un peu compliqué, ça vient d'Ésope. Et c'est un mot qui existe en Italie. Ce n'est pas un néologisme. Qui existe en Italie pour décrire, derrière des arguments, on parle en fait de choses politiques. Ouais, au 19e, beaucoup d'écrivains ne pouvaient pas parler directement de politique, donc on en parle à travers des exemples, mais le discours est directement politique. Eh bien, il pratique ce type d'écriture. Il obtient finalement d'être libéré sans demander la grâce à Mussolini. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a un prisonnier très célèbre à la même époque qui est Pietro Nenni, qui lui aussi a fait une lettre terrible à sa mère en lui disant « Mais comment t'as pu demander la grâce à Mussolini ?» Elle a réagi en mère, elle a dit « Moi je veux pas voir mon fils en prison, je demande la grâce. » Mais il a dit « Je veux pas de cette grâce-là, je veux pas m'agenouiller devant celui qui m'a mis en prison. Tu me trahis en me disant ça, c'est des mots très très durs. » Gramsci est sur cette ligne-là. Demander la grâce à Mussolini, non. Et finalement, il va obtenir, bon là je vous fais grâce, par une série d'interventions difficiles, il va y avoir des pas en avant, des libérations, puis on va revenir. Il y a 3 tentatives pour le libérer. Je veux dire le libérer, pas le libérer par hélicoptère, hein. Enfin, je veux dire pas le libérer, comment dire, une tentative d'évasion, mais le libérer par des échanges diplomatiques. Et finalement, ça va échouer. Il va d'abord être mis dans une clinique, mais toujours prisonnier, et il sera finalement libéré, et il meurt le jour même de sa mort. Mais Mussolini peut se targuer de dire, à la différence, il meurt le jour même de sa mort, ça c'est sûr. Il meurt le jour même de sa libération, vous pouvez être sûr. Vous voyez, l'historien est objectif, hein, on meurt le jour de sa mort. Eh bien, il meurt le jour de sa libération. Et alors après a couru, là encore, toute une littérature empoisonnée. Certains ont été jusqu'à dire qu'il aurait été empoisonné par des agents de Staline, bon, voire par le PC. On est un peu aussi, il y a une littérature sur Gramsci où faut trier le bon grain de livret. Hein. Il y a des choses qui peuvent poser. Bon, je crois qu'il est mort simplement des suites de ses maladies, peut-être de l'émotion aussi de cette libération, sans doute de quelque chose qui ressemblerait à un AVC, puisqu'il a une paralysie, et il meurt. Et ensuite, il y a Gramsci après Gramsci, mais ça, c'est plus la vie. En particulier, que deviennent les cahiers de prison. Et je terminerai sur ça. J'ai presque respecté le temps. Sur les cahiers de prison, qui est finalement le principal héritage de Gramsci. Alors, il y a d'abord, on a la chance de les avoir traduits en français. Pas tous, pas les cahiers de traduction, mais les cahiers principaux. Bien traduits par Robert Paris, qu'il faut saluer, qui est toujours en vie, qui a fait un énorme travail avec des traducteurs. Et travail difficile, hein, mais extrêmement bien fait. Alors, ce n'est pas la dernière version à jour, qui est très attentive à la diachronie, aux différentes étapes de l'écriture. Mais soyons honnêtes, ce travail est intéressant, mais quand même intéresse les spécialistes. Hein. On va dire, là, on a accès à Gramsci en français, à la pensée de Gramsci en français, et bien sûr en italien, il y a plein d'éditions. Ça, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces cahiers de prison? Ils sont sortis de prison, et ils se sont retrouvés en Union soviétique. Alors que Tatiana voulait les garder, finalement, elle est dépossédée de cet héritage. Et ils vont en Union soviétique, et c'est Togliatti qui les gère. Et Togliatti, au fond, moi, c'est mon hypothèse. Parce que c'est la grande question, comme on dit en latin, la vexata quaestio, la question qui fâche. Est-ce que Togliatti a trahi ou non Gramsci? Et moi, j'ai répondu en disant qu'il avait trahi Gramsci pour mieux le sauver, et qu'il avait sauvé Gramsci pour mieux le trahir. Je m'explique. C'est pas pour un simple goût du jeu de mots ou du chiasme. Il a pris ses cahiers de prison. Il a très bien compris que c'était explosif et que ça ne serait pas passé la censure de l'international communiste. Déjà, on l'avait vu, quand Gramsci avait fait sortir quelques-uns de ses ordres de prison, les fonctionnaires avaient dit « ça, tu le mets tout de suite à la poubelle ». Un prisonnier communiste, ça se tait, ça incarne, et ça reste fidèle au parti, ça ne donne pas une position critique par rapport au parti. D'ailleurs, même Gramsci l'a senti dans la cour de prison, puisque certains militants communistes lui ont fait sentir, et même quelquefois un peu physiquement, qu'il n'avait pas à critiquer la ligne. Et qu'il y a une rumeur à un moment comme quoi Gramsci était totalement critique par rapport à la ligne. Et dans le monde communiste, ça a été véritablement une secousse. Donc Togliatti garde ses cahiers, écrits en italien, et ne les traduit ni en français, ni en russe, ni en allemand. Toujours un problème de traduction. Pas parce qu'il ne sait pas ses langues, il sait le russe, il sait le français, il sait l'allemand. C'est les trois langues de l'international communiste. Il n'y a pas l'anglais, en trop. C'est plutôt ces trois langues-là. À partir de là, il dit à Dimitrov, responsable à l'époque de l'international communiste, « Oui, c'est telle ou telle chose, je classe. » Il lui fait des petites fiches en lui disant tel ou tel truc. Dimitrov, qui a d'autres chats aussi à fouetter, dit « C'est bon. » Et puis en plus, Dimitrov, à un moment, va avoir des petits soucis aussi, comme beaucoup d'autres. Donc, ça passe. Les cahiers sont sauvés. Et à partir de là, au moment d'un PCI, qu'on a beaucoup idéalisé en France, en disant le PCF est un ou les ouvriéristes complètement alignés sur l'Union soviétique, là où le PCI est un parti d'intellectuels plus libre par rapport à Moscou, taratata. C'est deux partis qui sont sur la même ligne. Et s'il y a eu des fameux intellectuels organiques, c'est beaucoup plus en France, où d'ailleurs des ouvriers ont été formés par les écoles du parti pour en devenir des cadres, beaucoup plus qu'en Italie, soit dit au passage. Donc, il y a des différences, mais il y a aussi des points communs. Et dans la période de la stalinisation, qu'est-ce qu'il faut ? L'opération de Togliatti consiste à dire Gramsci, c'est le militant, c'est lui, c'est l'icône, c'est celui qui résiste aux fascistes, c'est le fils de la classe ouvrière, l'enfant pauvre de Sardaigne qui résiste, le militant de fer qui résiste par la pensée, le militant fidèle. Et au moment de la déstalinisation, hop, les cahiers de prison vont commencer à être publiés. Et là, ça va servir à dire, voyez, Gramsci a gardé de la culture libérale. Ça permet de faire un pont. Vous voyez, Gramsci n'était pas un anticlérical, mais a tendu la main à l'Église, ce qui est vrai, etc., etc. Donc il y a une instrumentalisation permanente de Gramsci au gré des contextes politiques. Mais est-ce que, d'un autre côté, il y avait un autre moyen ? Un autre moyen pour Togliatti. Donc je ne veux pas diaboliser Togliatti, je n'idéalise pas, c'est mon problème ni d'idéaliser ni de diaboliser Togliatti, mais est-ce qu'il y avait un autre moyen que ce jeu de mieux sauver Gramsci en faisant le militant communiste à un moment, ou au contraire, celui qui avait vu avant les méfaits du communisme. Voyez, il y a indéniablement un jeu, et on ne peut pas penser le Gramsci seul sans le couple Togliatti. Bon, après, moi, je vous renvoie au dossier, on peut se faire son analyse, j'ai même publié quelques petites annexes, pas trop importantes, avec quelques lettres traduites pour la première fois en français, pour que vous aussi, que le public se fasse son idée. Il y a une biographie, il y a une bibliographie, bien sûr, pour aussi... là, il n'y a pas une pensée unique sur Gramsci, le dossier n'est pas clos, et il y a indéniablement une actualité de Gramsci. On le voit très nettement aujourd'hui à travers ses idées, mais je pense qu'il était quand même intéressant de s'arrêter sur sa vie, parce que sa vie, elle est assez riche. Je l'ai évidemment résumé, j'ai dû oublier beaucoup de choses importantes, mais c'est la règle du jeu. Je vous remercie de votre attention. Beaucoup.